ami de YesDoc, qui est de retour.
C'est nous
pour un nouvel épisode de votre émission médicale, Maëlle.
On l'a dit, comment ça va?
Bah écoute, ouais.
En forme?
On va dire ça, pas vraiment, un peu naze, mais...
T'as bonne mine pourtant.
Mais voilà, tu vois, c'est la mine qui fait tout.
Je sais parler.
Ah ouais. Et Maëlle, elle revient de vacances et elle a une mine de ouf.
Ouf.
Une mine de
ouf.
C'est
gentil.
Oui, bien.
En tout cas, ça fait du bien.
Bon, ce soir, chers auditeurs, on va parler chirurgie. Chirurgie?
Chirurgie.
Ça vous branche, ça vous branche, docteur?
Ça me va.
Ouais, on a avec nous un top chirurgien. Bernard Heiderich, le docteur Bernard Heiderich. Salut Bernard.
Hello.
C'est hello. C'est Bernard Heiderich est chirurgien au Chirec. Et il va nous entretenir aujourd'hui de la pathologie pariétale de l'abdomen. Ça veut dire tout ce qu'on peut avoir comme problème de paroi abdominale et la manière de traiter et de régler les soucis. Alors, monsieur Bernard, première fois que tu viens nous rendre visite à Judaïka, tu te sens bien relax, là?
Tout à fait relax.
On est bien?
On est bien.
On est bien. Voilà, déjà une très bonne nouvelle. Alors, l'habitude dans l'émission, puisque c'est devenu maintenant une tradition, hein, et que cette émission a déjà presque trois ans.
Deux ans.
Non, moi, j'ai toujours un peu d'avance sur mon temps. Disons deux ans. L'habitude, c'est de découvrir d'abord notre invité. Ça veut dire ta scolarité, ta vie sexuelle. Non.
Surtout ça, non. Évidemment.
La manière dont tu es arrivé à la médecine. Et voilà. Et tu as le micro est à toi. Tu as tout ton temps. On est relax. Et c'est à toi, mon vieux.
Eh bien, je suis ravi d'être ici avec vous.
Et tu es le bienvenu.
Très sympa de m'avoir invité.
Plaisir.
Merci à toi.
Je vais un peu parler de moi, donc je vais me présenter. Donc, j'ai 52 ans, j'ai pas mal bourlingué dans le monde de la médecine et de la chirurgie. Je suis né en Belgique et j'ai commencé par obtenir mon baccalauréat à l'école européenne.
Mmh. Mmh.
Ce qui m'a permis de connaître une diversité culturelle et intellectuelle intéressante. Et y a un peu de bruit.
Non, ça va.
Non, ça va. Mm-hmm. Et donc, mon parcours aurait pu être totalement différent car j'étais également un passionné de football.
Ah oui, c'est juste. On avait parlé de ça à l'époque.
Et j'étais pas si mauvais sur les terrains et donc j'ai dû faire un choix à 18 ans entre le football professionnel et les études de médecine. Et j'ai opté pour la blouse blanche plutôt que le maillot de foot. Et me voilà parti à l'ULB où j'ai d'emblée disséqué les cadavres en tant que prosecteur, où je prenais mon pied, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais voilà. C'était...
Donc aujourd'hui, chers amis, c'est une émission gore. Hein? Bernard, c'est notre chirurgien gore. Voilà.
Et donc ça m'a permis de me réconforter dans mon choix et de mieux connaître l'anatomie. Une fois obtenu mon diplôme, j'ai poursuivi ma spécialité en chirurgie.
Et la chirurgie, c'était parce que l'anatomie, c'était chouette sur les cadavres.
Mais c'était un but en soi. C'était vraiment pour réparer les gens, entre guillemets.
D'accord.
On va revenir sur la chirurgie pariétale, mais c'était vraiment ça, quoi, réparer les gens.
Oui, donc, il faut peut-être préciser, parce que j'ai oublié de préciser, que tu es un chirurgien digestif. Que tu t'occupes de toute la pathologie abdominale, en fait, et que la pathologie pariétale est le sujet qu'on a trouvé aujourd'hui. Mais bien sûr, tu passes pas ta vie à faire ça.
Il y a d'autres sujets.
Voilà.
Mais donc, à la base, effectivement, mon but, c'était vraiment de réparer les gens, pas juste donner un médicament. C'est pour ça que j'ai fait la chirurgie. Et donc, les salles d'op sont devenues mon terrain de jeu. C'est plus les terrains de foot, c'était les salles d'op, où j'ai passé des centaines d'heures, des milliers d'heures même, pour être le plus performant possible. Je suis souvent parti à l'étranger pour faire des conférences, des présentations, pour un peu affiner la technique ou trouver de nouvelles techniques. Et voilà, et je suis revenu en Belgique, j'ai fait la part entre la chirurgie, entre guillemets, privée, que j'appellerais plutôt personnalisée, et la chirurgie universitaire. Et donc ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique une médecine
privée,
personnalisée. Mmh. Voilà.
Pourquoi la chirurgie digestive et pas une autre chirurgie qu'on répare ailleurs aussi?
Ben, la chirurgie digestive, parce que ça ouvre pas mal d'horizons. Voilà, c'était celle qui était pour moi la plus diversifiée. Mmh. Et qui est encore assez diversifiée, même si ça se diversifie de moins en moins. On est de plus en plus obligé de se cantonner à un seul créneau de la chirurgie.
Mmh. Se surspécialiser, en fait.
Se surspécialiser, mais bon, ça reste encore assez diversifié en salle d'op et de pas toujours faire la même chose. Mmh. Voilà.
Et toi, tu te...
Les mêmes gestes.
C'est la paroi, mais il y a aussi les autres organes à l'intérieur.
Il y a la paroi, il y a tout ce qui est cancer.
Tu gères aussi tout ça.
Et puis, il y a aussi toute la petite chirurgie. Pour moi, c'est tout aussi important d'enlever quelqu'un avec une boule, quelle que soit, sur quelque partie du corps que ce soit.
D'accord.
Que d'enlever un gros cancer, on rend un service, quoi. C'est pour rendre la vie à la base, pour que la vie soit meilleure.
D'accord. Mmh.
D'ailleurs, l'indication de n'importe quelle chirurgie, qu'elle soit cancéreuse ou que ce soit pour une chirurgie pariétale, c'est pour améliorer la vie du patient. C'est pas pour la rendre
plus
compliquée.
Oui, sinon, c'est pas juste sinon, esthétique.
Sinon, il n'y a pas d'indication. Mmh. Voilà, il peut y avoir une chirurgie à faire, mais si je sais que ça va plutôt rendre sa vie plus compliquée, je ne le ferai pas.
Mmh. Mmh. Et t'as un rôle de garde, j'imagine, à l'hôpital ?
J'ai un rôle de garde à l'hôpital, donc ça c'est obligatoire jusqu'à 60 ans.
Ah oui, malheureusement.
Voilà. Et ça, oui, c'est mais à 60 ans, je vous dis les gars. Qu'est-ce que c'est bon de s'arrêter.
Frimeur.
Mais donc c'était à tel point, je voulais être chirurgien pour rendre service aux gens. C'est que, donc pendant ma spécialité, même quand j'étais interne, où j'ai fait même des gardes de réanimation, moi mon but c'était de vraiment pouvoir tout faire, une trachéotomie, donc ouvrir ici la gorge,
ouvrir la trachée pour les patients
respirer,
qui sont,
ouais, c'est ça. Savoir mettre des drains thoraciques
dans les plèvres pour les épanchements.
Pour les épanchements, voilà, c'était vraiment le but. J'ai fait aussi pas mal de chirurgie réparatrice post-traumatique avec réparer un membre, voilà. Bon, je me suis quand même plus spécialisé dans, on va dire, la chirurgie molle, mm-hmm, et la pariétale.
C'est ça.
Et tu as un rôle de formation des étudiants ou plus du tout ?
Plus trop. Je l'avais à l'époque, quand j'étais en universitaire. Donc maintenant, petit à petit, notre hôpital s'apparente plus à un gros hôpital universitaire.
Tout à fait.
Même si ça reste personnalisé. Mmh. Et donc, on a depuis 2 ans des chirurgiens en formation. Mmh. Mais voilà. Notre volume d'activité ne permet pas de prendre en charge personnellement un chirurgien. Donc, il a beaucoup d'activités grâce au fait qu'on est nombreux. Et donc, quand ils viennent m'aider, j'essaie de leur apprendre le maximum pour qu'ils se fassent une idée de la chirurgie. Mais voilà, je n'ai pas en charge spécifiquement... des chirurgiens en formation comme c'était à l'époque.
Bon, en deux mots, Bernard, c'est un peu un touche-à-tout, hein, on peut dire ça comme ça, et qui a une bonne patte chirurgicale, qui a une bonne main.
Tu travailles exclusivement à Delta.
exclusivement.
D'accord.
Voilà.
Donc ça aussi, ça fait partie de ma philosophie. Je dis, je n'ai jamais vu la raison pour laquelle je dis, je trouve que c'est un métier déjà compliqué, parce qu'on fait un métier à complication. Il faut bien se rendre compte que être chirurgien, c'est un métier, c'est faire un métier à complication. Et la seule différence, enfin, qui nous différencie d'autres, c'est de gérer ces complications. Et de réfléchir pour ne plus avoir la même complication
par la suite, quoi.
Par la suite, voilà. Ou en tout cas de les diminuer au minimum.
Okay.
Et donc, pour moi, se disperser dans plusieurs hôpitaux, c'est juste augmenter son taux de complication, ce qui est inévitable. Parce qu'on ne sait pas se diviser en deux, on ne sait pas se couper en deux. Et donc déjà, bien suivre ses patients dans un hôpital, je trouve ça déjà pas mal. Les suivre dans deux hôpitaux, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup de temps, déjà les temps de trajet. Et voilà, donc moi j'ai toujours été partisan d'être mono-hospitalier.
Oui, c'est vrai que c'est une activité. Ceci dit, dans les hôpitaux universitaires, ce sont les assistants qui sont en première ligne le soir, la nuit, et qui rappellent uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Je ne sais pas exactement comment vous êtes organisé en termes de rôle de garde au Chirec, mais on n'est pas vraiment en universitaire. Donc il y a pas de, il y a une structure de service, mais qui n'est pas aussi hiérarchisée et organisée que dans les vrais hôpitaux universitaires, où finalement, oui, certains chirurgiens travaillent dans plusieurs endroits, mais ce sont, il y a toujours des chirurgiens sur place, des jeunes par exemple, qui prennent en charge dans un premier temps. Et s'il faut, bah, voilà, le senior revient et je ne sais pas comment ça se passe là.
Toi. Mais exact, mais les deux, pour moi les deux systèmes, voilà, c'est juste différent. Il n'y a pas à critiquer l'un ou l'autre, c'est, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je, ayant fait les deux, ayant vécu les deux, pour moi, personnellement, je préfère quelque chose de personnalisé. Parce que le chirurgien qui vous opère, qui est en salle d'op, c'est le seul, au final, qui sait ce qu'il a fait, même s'il a une complication. Et c'est lui qui, en toute logique, pourra au mieux gérer cette complication.
D'accord, c'est logique.
Ça paraît assez logique. Et donc, c'est très compliqué. Il faut être beaucoup plus attentif et ça amène à demander plus d'examens quand on doit suivre le patient de quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas été en salle d'op. Et c'est pour ça que quand un chirurgien en formation vient m'aider, je ne le demanderai d'aller voir un patient ou de le suivre que s'il a été en salle d'op avec moi et qu'il a vu ce que j'ai fait. Et ce qui a été fait en salle d'op réellement.
Et qu'il a participé au...
On ne peut pas juste se baser sur un protocole opératoire.
Du coup, les terrains de foot sont loin maintenant. Il y a toujours un peu de foot.
Alors, les terrains de foot sont moins. Je joue toujours avec les vieux.
D'accord. Et c'est sans regret, ça va, la blouse blanche.
Je devrais m'arrêter parce que j'ai les genoux d'un vrai joueur de foot. Avec plus de croisés d'un côté, abîmés de l'autre.
Plus de ménisques.
Encore des ménisques, mais pas au top de leur forme.
Donc finalement, la blouse blanche, c'est pas mal, non?
Ouais, mais là, il devrait s'arrêter parce qu'il a de l'arthrose dans les doigts. Ok, Bernard, merci. Merci déjà pour ça. On va faire notre première petite pause musicale. Tu nous as concocté, choisi deux morceaux de musique. Alors voilà, raconte-nous, qu'est-ce que tu nous as choisi?
Alors, je vous ai choisi un morceau de Michael Jackson, que j'adore comme artiste, et que je trouve extraordinaire. Et un deuxième morceau de Alicia Keys, qui je trouve aussi également une artiste extraordinaire, que j'ai été voir à Forêt Nationale, et qui a une voix incroyable, et qui joue du piano de manière formidable.
Et on commence avec qui, très cher?
Eh bien... On peut commencer par Alicia Keys.
Alors, on y va. Amis de Yes Doc, vous êtes bien sur Judaïka 90.2, votre émission médicale favorite. Je vous rappelle que vous nous retrouvés tous les lundis à 16h, tous les mardis à 20h, en podcast, entre autres sur Spotify et Apple Podcast, et que nous sommes retransmis aussi dès la première diffusion sur Facebook Live. Alors j'espère que vous allez nous retrouver très très vite. On se retrouve, nous, avec Bernard Heiderich, immédiatement après Alicia Keys. À tout de suite. Et nous voilà de retour avec le docteur Bernard Heiderich qui vient nous entretenir de chirurgie pariétale abdominale, une chirurgie qui est en fait assez courante, fréquente. Et on va maintenant d'abord essayer de définir les soucis qu'on peut trouver au niveau d'une paroi abdominale. Alors Bernard, qu'est-ce qu'on trouve comme problème au niveau d'une paroi abdominale? En gros, On est à toi, avec une bonne explication de ce que c'est, pour, voilà, et les causes, les, ce qui favorise. Voilà. Nous sommes tout à toi. Nous sommes pendus à tes lèvres.
Bon, c'est large, hein, mais je vais essayer d'être le plus précis possible.
Évidemment.
Alors donc, il faut savoir que la chirurgie pariétale est fondamentale, et notamment pour ce que j'avais dit avant par rapport au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie, parce que la paroi, en fait, on l'utilise tout le temps. Ne fût-ce que pour aller à la toilette, pour se tenir droit, pour faire du sport. Et donc, les principaux soucis pour lesquels les gens vont...
j'en profite pour améliorer ma paroi, là, un instant.
Hein, voilà.
Continuez. Hein.
Vont venir voir un chirurgien comme moi, c'est parce que il présente soit une voussure, une boule ou une douleur au repos ou lors de pratiques sportives. Alors, la chirurgie pariétale est aussi très intéressante d'un point de vue anatomique parce que ça regroupe plusieurs muscles avec une anatomie assez complexe. Et pour le chirurgien, c'est aussi un challenge de reconstruire tout ça correctement, justement pour que la personne puisse refaire son sport, ne plus avoir de douleur, ne plus avoir cette voussure qui le gêne sur le plan esthétique. Mmh. Alors, il y a des endroits naturels assez logiques, hein, que tout le monde connaît. Plus prononcé chez l'homme, c'est au niveau inguinal.
Donc, les canaux inguinaux.
Il y a une petite glissance au niveau de la paroi à ce niveau-là.
Oui, voilà. Attends, on va d'abord préciser un petit peu. Le canal inguinal, il se trouve à hauteur du pubis.
Un peu.
Grosso.
Un peu en dehors.
Ouais, enfin, voilà. Ah, je veux dire, je localise hein, mm-hmm. pour que tout le monde comprenne. Et il met en rapport quoi avec quoi?
Alors, il met en rapport. Donc, le scrotum.
Chez l'homme.
Les testicules.
Chez l'homme.
Voilà.
Et la cavité abdominale.
Qui vont vers la prostate.
C'est ça.
Ou les petits spermatozoïdes.
C'est ça. Donc, à l'intérieur du canal inguinal chez l'homme, il y a le cordon avec le canal déférent qui amène les spermatozoïdes vers la prostate avant le grand voyage.
Voilà. Et chez la femme, c'est plus rare, évidemment, parce que chez la femme... C'est juste un ligament qui maintient en fait une certaine statique pour l'utérus, qui est le ligament rond, et en fait qui s'effiloche au niveau inguinal. Il n'y a pas vraiment de canal. Il n'y a pas de testicule, évidemment. Mmh. Et donc, l'hernie chez la femme, via les canaux, est nettement plus rare.
Ouais. Après, ça peut exister aussi chez l'enfant. Avec des défauts de fermeture ou des fragilités. Juste pour préciser, hein, pour le canal inguinal, comme ça, on a tout, ce sont des endroits de fragilité constitutionnelle, en fait. Hein.
Constitutionnelle, voilà. Donc ça, c'est un des endroits. L'autre endroit assez logique, c'est l'ombilic,
ouais.
Par lequel on est nourri et qui est également censé se refermer et donc qui peut présenter plusieurs types d'hernies ou malformations chez le bébé et qui peut présenter une voussure à l'âge adulte ou simplement une boule de graisse qui va sortir de l'ombilic à l'effort. Mmh. Voilà.
Donc ça, c'est les hernies.
Après, il y a d'autres hernies plus rares.
Ouais, mais qui sont quand même intéressantes. Hein.
Ouais, les hernies latérales au niveau d'endroits donc ça c'est de faiblesse. Et là, il faut comprendre un peu comment l'abdomen est construit sur le plan anatomique. Mais donc, il y a des hernies qui peuvent s'insinuer entre les plans musculaires. Une des plus connues qui s'appelle l'hernie de Spiegel, voilà, qui est très difficile à diagnostiquer, mais qui
ça dépend, s'il y a des
donne des douleurs. Et donc, on va pas spécialement pouvoir le diagnostiquer sur un examen clinique. Et donc là, il faut l'aide d'un radiologue pour préciser ce type d'hernie et voir comment on va la réparer. Quoi. Mmh. Et alors, il y a les hernies internes, aussi dans des endroits anatomiques comme l'hernie hiatale où passe l'œsophage à travers le diaphragme.
À travers le diaphragme.
Qui est aussi la plus connue et qui peut donner de l'acidité.
Un gros reflux gastro-œsophagien en fait. Hein.
Voilà.
Et qui peut, par glissement, entraîner une partie de l'estomac qui va se retrouver dans le thorax.
Dans le médiastin, pour être.
Oui, exactement. Le médiastin qui est entre les poumons, en fait, ouais. et provoquer un inconfort et des douleurs, et voilà quoi. Donc ça, c'est en effet important. Ouais. Ceci dit, là, on a quitté la paroi, mais c'est vrai que c'était quand même intéressant. Mm-hmm. Ok, ça sont les hernies. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme problème de paroi ? Post-opératoire, après les accouchements, après...
T'en dis trop, il dit.
Non, mais justement, je lance mon camarade. Hein, je sens qu'il est sur sa bicyclette et qu'il est prêt à démarrer.
Il est à fond, là.
Yes, donc là, monsieur. Là, on rentre plus spécifiquement dans la terminologie. Donc, quand on parle, normalement, quand on parle d'hernie, c'est quelque chose, c'est un patient qui n'a jamais rien eu avant. Mmh. C'est un endroit de faiblesse, c'est une blessure qui s'est faite en faisant du sport, voilà. Dès qu'on parle d'éventration, donc maintenant, en terminologie exacte, on parle d'hernie incisionnelle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la personne a déjà subi une chirurgie, une incision, un coup de couteau, n'importe quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, on parle d'éventration ou d'hernie incisionnelle. Et là, effectivement, ça peut être partout sur la paroi. Et après, n'importe quelle chirurgie, que ce soit une chirurgie pour l'appendice, pour enlever la vésicule, pour enlever le côlon, une césarienne.
Mmh.
Voilà. Évidemment, ça dépend. Donc, il y a le contexte chirurgical, le chirurgien, comment il referme la paroi après sa chirurgie. Mais il y a surtout aussi, il ne faut pas oublier, le contexte du patient. Et donc, il faut quand même, depuis plusieurs années, j'insiste sur le fait de responsabiliser les patients par rapport à leur propre état, surtout pour la chirurgie pariétale.
Mmh.
Et donc, un patient qui est en surcharge pondérale, qui pousse tout le temps avec son ventre, bah c'est comme un ballon de foot. Si vous mettez trop de pression dans le ballon, il y a un moment, la chambre à air va sortir. Et c'est ce qui se passe pour les hernies.
Mmh.
Ça, les toux chroniques aussi, peut-être ?
Les toux aussi, ça peut favoriser les phénomènes hernières. Ouais, exact.
Ou les grands sportifs qui poussent beaucoup, qui font des abdos toute la journée.
Alors normalement, eux, ils sont censés gainer et avoir justement la musculature qu'il faut. Parce que quand on pousse jamais avec son ventre. On pousse en rentrant le ventre. Et ça, c'est une question d'habitude. Il faut toujours faire l'effort à l'expiration, en ayant l'idée qu'on rentre son nombril à l'intérieur du ventre. Et en faisant ça, vous allez vous gainer, ce qu'on appelle du gainage, et vous allez éviter toute la problématique des hernies.
Mm-hmm.
Et en tout cas, même si vous en avez une, vous allez éviter de vous faire mal.
Ok, alors on a abordé les hernies, on a abordé les éventrations, hein, donc les hernies incisionnelles, et... on a, au niveau de l'abdomen, partie antérieure au milieu, entre les muscles grand droit.
La ligne blanche.
La ligne blanche, voilà.
Et donc ça concerne, donc ça c'est moins fréquent chez l'homme. Et donc ça concerne plus les femmes après accouchement. C'est pas spécialement des femmes en surcharge pondérale. C'est même souvent des femmes assez minces.
Mmh.
Qui ont malheureusement des gros bébés qui partent vers l'avant.
Donc il y a une importante distension en fait.
Donc il y a une importante distension. Cette distension, elle est créée par le climat hormonal qui est là justement pour favoriser l'accouchement. Mais malheureusement, ça distend aussi ce qu'on appelle la ligne blanche qui est entre les muscles grand droit. Après, ici à la radio, je ne peux pas faire un dessin.
Non, mais en expliquant, c'est bien.
Blanche. Mais donc, c'est un regroupement aponévrotique des trois muscles qu'on a sur le côté de l'abdomen, qui sont transverse, petit oblique et grand oblique, de la profondeur vers la partie externe. Et cette ligne blanche, à la faveur de ces grossesses, peut s'écarter très fortement. Au-delà d'un certain écartement, malheureusement, ça ne va plus se remettre ensemble.
Donc, alors, tu parlais d'un regroupement d'aponévrose.
Oui.
C'est vrai, c'est bien. Qu'est-ce que c'est une aponévrose ?
L'aponévrose, c'est la fin du muscle, d'un muscle. Si vous voulez,
c'est un feuillet.
La partie
fibreuse, quoi.
La partie rouge, c'est, on va dire de manière imagée, c'est
la
muscle.
Ouais.
C'est la chair et la partie fibreuse.
Blanche.
C'est l'aponévrose.
Voilà, quand on mange un steak, on enlève souvent la partie blanche qui est pas très, qui croque sur la
dent. Pourquoi tu me dis ça à moi comme ça ?
Bah, je t'explique parce que c'est jamais.
Je suis pas chirurgien.
Voilà, exactement.
On s'en fout, nous. Nous, on les regarde, en fait, les lignes blanches. Alors, la pathologie de la ligne blanche, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très fréquent.
Mais ça, c'était donc le diastasis.
Et ça s'appelle un diastasis.
Donc, il y a plusieurs noms. Il y a diastasis des grands droits.
Voilà, c'est ça.
Déhiscence de la ligne blanche.
Voilà.
Hernie de la ligne blanche, on dit aussi. Ça porte... Il y a plusieurs terminologies pour...
Autre chose que tu vois comme pathologie de la paroi?
Alors, il y a toutes les pathologies infectieuses qui créent des défects cutanés et pariétaux. Mmh. Parce que l'infection a le propre de, on va dire, entre guillemets, manger les tissus. Mmh. Et donc là, il faut débrider, donc enlever tous les tissus
atteint,
nécrotique, et puis reconstruire par la suite. Et alors, il y a les grosses pathologies avec des gens qui... Bon, un des derniers que j'ai opéré, il avait été écrasé par un Clark. Mmh. Et donc là, il faut reconstruire tout l'abdomen, remettre les muscles plan par plan, et souvent utiliser du matériel prothétique pour vraiment reconstruire la paroi.
Tu gères pas tout ce qui est lipome, toutes les boules graisseuses dont les patients se plaignent souvent, c'est les petites boules qui apparaissent.
Oui.
Ok.
Mais là, on peut pas vraiment parler des
non, c'est de la pathologie.
Non, on
parle
des
dermis,
mais
c'est de la pathologie dermato, quoi.
C'est au sein de la paroi, mais c'est quelque chose qu'on est amené à opérer assez souvent, et ça peut prendre des gros volumes. Et ça peut se mettre partout sur le corps, dans le dos, sur le ventre, sur les jambes, sur les bras.
Alors, là, on a déjà fait le tri de ce qu'on peut trouver. Maintenant, la symptomatologie, avec chaque type d'anomalie de paroi, que ce soit hernie, diastasis, compagnie, comment est-ce que ça va se traduire d'un point de vue symptomatologique, tout ça ?
Alors, d'un point de vue symptomatologique, c'est éminemment variable d'une personne à l'autre. Les gens avec la même hernie inguinale, il y a quelqu'un qui va dire qu'il a mal tout le temps et l'autre il dit qu'il ressent rien du tout. Mmh. Mais si on veut scinder, c'est un, la douleur, deux, la voussure, donc l'irrégularité au niveau de la peau, qui n'est pas forcément douloureuse. Mmh. L'aspect inesthétique.
Ouais, c'est ça.
Alors l'aspect inesthétique, ce sera un peu plus vrai pour le diastasis, parce que
c'est
pas spécialement
des grands droits, hein.
Dangereux, oui.
Mais c'est vrai que quand tu tends ta paroi, enfin quand tu te relèves, par exemple, tu as comme une espèce de gonflement qui apparaît entre les grands droits,
Les grands droits. Par contre, ça peut créer... Les patients vont plus se plaindre de douleurs dans le dos. Parce qu'ils n'ont...
Ils ont moins de soutien.
Ils n'ont plus de ceinture abdominale. Mm-hmm. Et donc, ils ont typiquement mal au dos. Et donc, souvent, les femmes que j'opère, chez qui je remets les grands droits correctement en place, n'ont plus de douleur au dos par la suite. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et pour ce qui est des hernies, une petite hernie non visible peut être très douloureuse. Une grosse hernie ne peut occasionner aucune douleur, mais juste avoir un aspect inesthétique avec une boule qui sort.
Et la boule qui sort, alors il y a quoi dedans?
Ah oui, c'est alors ça aussi, c'est intéressant.
Alors il peut y avoir de tout.
Voilà.
Souvent c'est de la graisse. Souvent c'est de la graisse...
intra-abdominale.
Oui, pré-péritonéale.
Mm-hmm. D'accord. Et donc le péritoine, c'est quoi?
Parce que le péritoine, c'est l'enveloppe de l'abdomen, c'est ce qui recouvre tout l'abdomen, c'est un peu comme la chambre à air d'un ballon de football.
Voilà, donc la graisse qui passe, c'est pas...
C'est entre le muscle et le péritoine.
D'accord. Mm-hmm.
Il y a une couche de graisse. Et donc, la tendance naturelle des hernies, c'est qu'elle va grandir avec le temps. Une fois qu'on en a une, il n'y a aucune chance qu'elle se referme toute seule.
D'accord.
Et donc, si on continue à mettre de la pression, ou si on ne fait pas d'efforts pour maigrir, si on ne fait pas de gainage, elle va continuer à grandir. Donc, cette chambre à air va continuer à sortir, à avoir tendance à sortir. Et donc, là-dedans, une fois que le péritoine sort complètement, là-dedans peuvent arriver les organes internes.
Mm-hmm.
Donc, comme de l'intestin grêle, le côlon...
la vessie.
Les ovaires chez les petites filles, chez les bébés.
Les ovaires.
Ah ouais, ouais.
Mais là, c'est différent parce que là, c'est dû à la migration.
Oui, c'est vrai. Mais
lors de l'enfance. Mais effectivement, on peut retrouver.
On va retrouver.
Chez les bébés, les ovaires, il faut faire attention.
En inguinal, c'est. Je veux dire, chaque suspicion de hernie doit être explorée en échographie pour être sûr de ce qu'on va y trouver.
Exact.
Voilà.
La dernière en date, il y a eu la vessie.
Oui, la vessie, bref. On peut tout trouver.
Et la vessie. Les cornes, oui, les cornes vésicales.
Ouais.
Ouais.
Ça, c'est hernie inguinale, ok. Hernie ombilicale, c'est en général du gras, simple.
C'est en général du gras, mais bon, voilà, plus ça évolue, on peut aussi retrouver des gens qui, finalement, il y a l'intestin qui sort par l'ombilic.
Ouais.
Et alors, il y a toutes les anomalies congénitales vésicales. Donc, on peut... ça peut aussi se traduire par une simple infection, donc une rougeur de l'ombilic, qui témoigne simplement que on peut avoir un résidu embryonnaire de ce qu'on appelle l'ourac. Mais bon, ça c'est technique, hein, mais voilà.
On complexifie. Il y a un petit canal qui va de l'ombilic jusqu'à la vessie.
Jusqu'à la vessie, ouais. Et qui normalement est censé se refermer.
Mm-hmm.
Et il se referme pas, ou à moitié, ou il reste un kyste, et ce kyste peut s'infecter. Et donc ça aussi, on peut retrouver...
une rougeur au niveau de l'ombilic.
De l'ombilic, ouais.
Ok.
Est-ce que c'est urgent d'opérer? Dans quel cas on s'inquiète, en fait?
Alors... en dehors de ce qu'on appelle les hernies étranglées.
Alors ça, tu peux préciser peut-être, s'il te plaît.
Donc, étranglé, ça veut dire qu'il y a une souffrance, mais ça peut être de la graisse,
mm-hmm.
comme de l'intestin. Et à partir du moment où il y a une souffrance, il va y avoir une rougeur et une infection qui va s'installer.
Donc, qu'est-ce qui souffre, la graisse et l'intestin?
Alors, la graisse peut souffrir.
D'accord.
Donc, si quelqu'un, pour donner un exemple, va faire un gros effort, il va sortir... Donc il y a beaucoup de graisse qui va passer au niveau de l'ombilic, on va dire. On va prendre quelque chose de simple.
Et se coincer.
Il va avoir mal, donc il va serrer son ventre, ça va se coincer, ouais. Et ça ne va plus revenir à l'intérieur.
Le pendule, quoi.
Et par réaction, donc, cette graisse va s'enflammer, ouais. Ça va créer une rougeur et ça va créer une infection.
D'accord.
On peut avoir le même phénomène avec de l'intestin qui ressort, sauf que là, c'est plus embêtant. Parce que là, en plus de la rougeur et de la douleur, l'intestin ne va plus être vascularisé, donc il va se nécroser.
Parce que les vaisseaux de l'intestin vont être étranglés justement dans ce trou.
Dans ce trou.
Ok.
Et donc l'intestin va se nécroser. Et donc là...
c'est une urgence.
L'urgence, c'est de réduire la hernie.
Mmh.
C'est pas vraiment d'opérer.
Mmh.
Mais si on n'arrive pas à la réduire de manière manuelle, alors il faut opérer.
Mmh. Ah oui, non, mais clair, je veux dire, c'est important.
Il y a des patients qui ont mal de façon chronique par rapport à leur hernie, et ce n'est pas pour autant une urgence, parce qu'ils savent appuyer dessus et faire rentrer la hernie, c'est ça?
Oui. Et il y a des patients qui ont peur des hôpitaux, peur de la chirurgie, et donc qui retardent le plus tard possible une éventuelle intervention. Et donc j'ai déjà eu des patients avec une hernie inguinale où ils avaient dans leur scrotum, donc c'est la, la petite bourse dans laquelle est censé y avoir juste le testicule, tout le côlon droit,
la moitié de l'abdomen,
une partie de l'intestin,
on a déjà vécu ça,
le petit intestin et le côlon transverse. Donc là, ça devient, et donc il faut savoir quand même, les gens doivent savoir que une petite hernie, c'est pas c'est pas très compliqué à, à réparer, mais plus on attend,
plus c'est complexe.
Plus la chirurgie devient lourde et plus ça devient complexe à opérer.
C'est un peu la même chose
et
que...
Et plus on augmente les complications.
Que pour les fabricants de caleçons qui se retrouvent dans des situations parfois complexes. Ouais. On est d'accord, hein, Emmaël.
Et donc en pratique, le patient, il vient, il a mal. On suspecte une hernie. Qu'est-ce qu'on lui propose ?
Voilà, c'est ça.
Alors, ça dépend du type de hernie, mais bon...
Mise au point.
Quand elle est évidente, c'est chirurgie.
On ne fait pas d'examen complémentaire avant ?
Pas nécessairement.
D'accord.
Donc c'est quand même la clinique, l'examen clinique est le premier examen primordial. Quand il y a un doute sur ce qu'il y aurait dans l'hernie ou s'il y a réellement une hernie, le patient vient avec une douleur, mais cliniquement on n'a rien, alors on demande des examens complémentaires. Premier examen non invasif, c'est une échographie. Et si c'est des hernies plus complexes, surtout comme on avait discuté tout à l'heure dans le cadre d'éventration, donc d'hernie incisionnelle, on peut être amené à demander un scanner pour bien voir les différentes couches musculaires de l'abdomen et voir comment on va réparer au mieux l'hernie pariétale.
Et ensuite, du coup, il passe en chirurgie. Sous quel délai il faut qu'il passe en chirurgie ? Généralement, c'est assez rapide. Enfin, ça dépend du degré d'urgence, évidemment. Mais...
Tout dépend des plaintes. c'est pas spécialement. Non. Tout dépend des plaintes du patient.
D'accord.
Voilà, il y a des gens qui, comme je disais, qui arrivent avec des tout petites hernies, mais qui sont très très douloureuses.
Mais on opère systématiquement.
Alors on propose.
Mais il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie. Parce qu'avant on parlait de gaines pour éviter justement.
Alors c'est une très bonne question. Mais donc moi depuis maintenant plusieurs années, et comme je disais, pour moi ce qui est important c'est que quand même le patient participe à sa guérison. Hein, on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne soigne pas, c'est comme une voiture, si vous ne l'entretenez pas, il y a un moment le moteur va lâcher, ou les pneus vont lâcher, voilà, il faut s'entretenir. Et donc moi depuis plusieurs années j'ai mis comme contre-indication, hors urgence, tous les patients qui sont en surcharge pondérale, ils doivent d'abord perdre du poids, d'abord faire un peu de kiné avec du gainage abdominal avant de se faire opérer.
Parce que le risque de complications et le risque de récidive peut-être est plus important.
Voilà. Ok, alors maintenant on a fait le tour des pathologies, de la symptomatologie, traitement. Docteur, on arrive à ton dada. Ah oui, on y est là. Traitement.
Alors, dans le traitement, donc là, depuis plusieurs années, beaucoup d'hernies sont traitées par chirurgie dite mini-invasive, donc avec des petits trous, donc une caméra et des instruments pour réparer la paroi. Et donc, on est amené à mettre ce qu'on appelle des renforts prothétiques.
Alors,
qui sont généralement des renforts faits de polypropylène ou polyéthylène.
Donc des filets.
Ce qu'on appelle des filets qui sont colonisés par nos tissus, qu'on met en place pour renforcer la paroi. En continuant à aller dans des congrès pour garder mes connaissances au top.
Mmh. Ouais, ouais.
Les firmes ont développé des filets qui sont maintenant biosynthétiques, complètement résorbables, mais qui vont renforcer la paroi parce qu'ils vont petit à petit digérer et renforcer par nos propres tissus, par nos propres collagènes. Après, ces filets coûtent très très cher, donc c'est, on ne peut pas actuellement utiliser ces filets.
Les proposer à tout le monde, quoi.
Voilà. Et de toute façon, c'est pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais voilà, c'est ce qui se développe
alors, le à but, l'heure actuelle. Le but, donc, c'est de mettre ce filet à l'entrée de la zone qui est, on va dire, déforcée, hein, la zone hernière. Ouais. Et comment est-ce qu'on les fixe, ces filets? Comment ça marche?
Alors, beaucoup de ces filets s'autofixent.
Ça veut dire?
Et donc, ils ont des petites accroches qui fait que dès qu'on les place, ils s'accrochent au tissu.
Et on les accroche à quel tissu?
Et donc, ça dépend du type de hernie. On peut les, là, ça devient...
Une hernie inguinale, par exemple.
Alors, dans l'hernie inguinale, typiquement, on les accroche en pré-péritonéal.
OK.
Voilà. Donc, on fait une dissection derrière le muscle. On met le filet derrière le muscle et on referme le péritoine derrière. Il y a des techniques qui n'ouvrent même pas le péritoine. Donc, on dissecte derrière le muscle et on met un renfort prothétique.
OK. Ça, c'est pour l'inguinale. Donc, ça se positionne quasi tout seul. Ça veut dire que tu les glisses et voilà, tu les étends.
Le point le plus important, c'est la dissection, la réduction de la hernie. Et puis, on glisse le filet pour renforcer la partie de la paroi qui a été affaiblie.
Et alors, au plus, la hernie est volumineuse, j'imagine, au plus, le volume, enfin, la taille de ton filet doit être importante. Comment ça marche, ça?
Alors, si on utilise un filet, il faut, par rapport à la taille de la hernie, il faut respecter un certain
ratio.
Ouais. Et donc, effectivement, plus le trou est important, il faut que le filet soit suffisamment grand pour largement couvrir le déficit herniaire. Parce qu'avec le temps, ces filets, qu'ils soient de polypropylène ou de polyéthylène, ils se rétractent. Mmh. Même s'ils sont collinisés par les tissus, ils se rétractent avec le temps. Et si on utilise un filet trop petit, ben on peut aisément comprendre que si le trou est grand et que le filet est trop petit, qui ne couvre pas trop largement, à la moindre toux, le filet va être soufflé
dans la hernie,
dans le trou.
Ouais.
Maintenant, moi, depuis aussi plusieurs années, je suis quand même partisan de réparer tout ce que je peux réparer avec les propres tissus du patient et ses muscles.
Donc on ne met pas systématiquement un filet?
Non, pas systématiquement.
Est-ce que filet, c'est plaque?
C'est plaque, c'est le même.
C'est la même chose. Parce que les patients disent filet, plaque, et parfois ils ne savent pas quoi.
C'est exactement la même chose.
Okay. Mm-hmm. Ouais. Donc ça veut dire, par exemple, en général, en inguinal, ce sont des filets, en général, j'imagine.
Et donc, justement, je veux rebondir
mais
là-dessus.
Mais peut-être pas chez les enfants, et par exemple.
Ce n'est pas le cas chez les enfants et ce n'est pas le cas chez les jeunes sportifs.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce n'est pas assez solide.
Voilà. Et ce n'est pas une question d'assez solide, c'est que. On va, avec le filet, justement, on va juste couvrir le déficit pariétal, mais on ne va pas le corriger.
C'est ça.
Donc la personne va rester avec son déficit. Mmh. Et donc, ayant été footballeur, j'ai gardé une grosse clientèle de footballeurs.
Ah bah oui.
Et donc, quand on a un déficit herniaire inguinal... qui n'est pas via le cordon, mais qui a un déficit direct, qui est aussi un endroit de faiblesse anatomique.
Il y a plusieurs types de hernie inguinale, hein. Ouais. Direct, indirect.
Ces footballeurs, mais pas que des footballeurs, hein, des sportifs de haut niveau, des basketteurs, enfin tous les sports avec des jeux de rotation, vont développer ce qu'on appelle des cruropubalgies ou enthésopathie périsymphysaire pubienne. Là, ça devient très compliqué. Je suis désolé, mais... En gros, ils vont se faire des micro-déchirures au niveau des zones d'insertion des tendons sur le pubis à cause de ce déficit musculaire qui va déséquilibrer leur bassin. Et donc, dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose d'aller mettre
un filet
derrière qui ne va pas corriger le déficit. Et donc là, il vaut mieux retendre le fascia en ouvrant et retendre les muscles en ouvrant.
C'est ça.
Qui va permettre une guérison de la pathologie.
Et une reprise peut-être plus rapide aussi de leur activité.
Et une reprise de leur activité plus rapide, ça peut-être pas, mais en tout cas, ils n'auront plus mal.
D'accord.
La convalescence est longue derrière.
Oui, c'est ça.
La convalescence est longue.
Oui.
Donc on fait ce type de chirurgie par rapport à un filet où les gens ont quasi pas mal et ils peuvent retravailler une semaine après. Bon, une semaine n'est pas une personne n'est pas l'autre. Hein. Y a des gens qui malgré tout ont des douleurs et ont du mal pendant une semaine, mais il y en a. On va dire la majorité ont très très peu de douleurs, contrairement à une chirurgie où on retend les muscles. Là, les gens sont quand même pendant 4 semaines moins mobiles, même s'ils marchent normalement, mais la douleur est quand même plus importante. Et reprise sportive ne peut se faire qu'après 6 semaines, progressif.
Okay.
Parce qu'il faut, attendre le temps de cicatrisation du muscle qu'on a recousu. Et ça prend 6 semaines.
Ok. Bon, donc on a un peu compris le type de chirurgie que tu pratiques, enfin qu'on doit pratiquer idéalement dans ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on va terminer avec ça évidemment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de complications?
Alors,
le plus fréquent.
Alors, le plus fréquent, donc en chirurgie laparoscopique, c'est les complications hémorragiques.
Ouais.
Et sinon, à long terme, on va dire la récidive, enfin à long terme ou à court terme.
Un pourcentage ?
C'est rare, c'est moins de 1%.
Oui.
Et la dernière complication qui peut se présenter, c'est l'infection qui est, avec la chirurgie laparoscopique, par rapport à la chirurgie ouverte, très très rare. Ou quasi inexistante.
Ok. Bon, du coup, et il y a aussi j'imagine toutes les complications par rapport aux chirurgies en général, donc thromboemboliques.
Oui, donc, c'est des complications générales qui sont valables pour tout type de chirurgie, même quelqu'un qui vient.
Oui.
Qui vient pour un ongle incarné.
Oui, il y a toujours ce risque-là. Est-ce qu'il y a un risque de surinfection important aussi ou pas au niveau du site opératoire?
Alors quand on opère donc en chirurgie mini-invasive, donc par voie laparoscopique, le risque infectieux est quasi nul.
D'accord.
Parce que justement, on ne va pas dans le ventre avec ses mains, tout se fait avec des instruments. Et donc personnellement, j'ai jamais vu une infection de prothèse par voie laparoscopique.
Okay.
Ce qui n'est pas du tout le cas par voie ouverte. Le risque est beaucoup plus élevé.
Ok. Bah, je crois qu'on a fait un bon tour de la situation.
Je pense que nous arrivons au bout de ce bon moment.
Merci beaucoup.
Cher docteur, tout s'est bien passé. Hein,
oui, hein.
Un petit mot de la fin, peut-être.
C'était une chirurgie facile, je trouve.
Un petit mot de la fin.
C'est une chirurgie sans douleur, sans souci. Alors, le petit mot de la fin, c'est quoi? Gainez-vous.
Le petit mot de la fin, gainez-vous, faites du sport, mangez sainement,
mais
ne prenez pas de poids.
Ouais. Bon.
Il est dur, hein, il est dur ce soir.
Finalement, il est chiant, il ne reviendra plus. Bernard, c'était très sympa, merci.
Merci beaucoup.
Merci pour ta venue chez nous le plateau d'ISDoc. Tu nous as choisi un deuxième morceau musical, donc, qui sera Michael Jackson.
Exact.
Et donc, on va se quitter avec Michael Jackson et on se retrouvera très vite pour un nouvel épisode de nos aventures médicales. Vous étiez donc sur ISDoc. Nous étions avec le docteur Bernard Heiderich qui nous parlait de chirurgie pariétale abdominale. Mayaël.
À la prochaine.
Un gros bisou.
Bisous.
Que tout va bien.
À bientôt tout le monde.
Un bon petit Michael Jackson et portez-vous tous bien.
believe.